des écrivains, une émission proposée par Christophe Nodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Cette semaine, une émission consacrée à l'art du portrait avec deux orfèvres en la matière sur deux sujets qui, il faut le dire, valaient le détour et mieux qu'un détour, un beau livre sûrement. Jean-Marc Parisi consacre un récit à Alain Delon sous le titre « Un problème avec la beauté », c'est chez Fayard, et Vanessa Schneider, un récit aussi, mais consacré à Maria Schneider, l'actrice Maria Schneider, c'est chez Grasset. Honneur à elle. Bonjour Vanessa Schneider.
Bonjour.
Alors tu t'appelais Maria Schneider et votre huitième livre, il nous raconte celle que vous avez bien connue puisque c'était votre cousine. Vous la mettez en scène, si je puis dire, dans cette évocation d'une femme broyée par le cinéma, par une trahison de cinéma. La fameuse scène de Tango à Paris de Bertolucci avec Marlon Brando qui devait être le début d'une grande carrière et qui fut, comme vous l'écrivez, le linceul de tes rêves. Car Maria Schneider, vous nous la racontez à la deuxième personne, à la façon d'une lettre qui convoque la disparue, à travers vos propres souvenirs, certains documents aussi. C'est un bref destin, c'est une vie brûlée que vous retracez, brûlée et j'allais dire poinçonnée par les trous des piqûres d'héroïne et ceux qu'ont fait le désespoir dans la peau des illusions de la jeune actrice, de plus en plus perdue. Vous nous racontez, Maria Schneider, l'actrice, la cousine, le membre de la famille et de cette constellation a priori brillante qu'on appelle parfois le milieu du cinéma et que vous nous montrez sous un jour très sombre, très masculin aussi. Londres, Paris, New York, Brando, Bardot, Delon, ils sont là, les villes sont là, les étoiles sont là. Tu t'appelais Maria Schneider comme s'il ne restait plus qu'un nom qu'il fallait lui redonner.
Oui, parce que Maria a disparu pendant longtemps. Elle a eu cette célébrité à laquelle vous faisiez allusion, très subite et violente d'une certaine façon. Et puis, au fil de son désespoir, de la tombée dans la drogue, de l'éloignement aussi des plateaux de cinéma, elle a disparu. Et donc, l'idée, c'était évidemment de s'adresser à elle, parce que je pense que je lui avais pas tout dit de son vivant. Il y avait encore des choses que j'avais envie de lui dire. Donc, le tu, il s'est imposé assez naturellement. Et puis, lui redonner son nom, je pense que c'était quelque part lui redonner une forme de dignité qu'elle avait perdue. Maria, elle a été, malheureusement pour elle, parce que ça a été une souffrance qu'elle a portée tout au long de sa vie, réduite à une seule image d'une seule scène, d'un seul film, et à une image de corps. De corps dénudé,
de corps sans nom,
corps sans nom, de chair, et elle était sans cesse renvoyée à ça, à la nudité et à son corps. Donc lui redonner son nom, c'était une façon de la rhabiller.
Très bien. Bonjour Jean-Marc Parisi.
Bonjour.
On vous connaît comme romancier, Jean-Marc Parisi, le lycée des artistes, la mélancolie des fast-food, avant, pendant, après, prix Roger Nimier. Vous publiez Un problème avec la beauté, sous-titré Delon dans les yeux, estampillé récit. On le suit avec vous, Delon, de l'enfance à l'âge adulte, de Visconti à l'affaire Markovic, des femmes aux mauvais garçons. Romy Schneider, Belmondo, Gabin, la piscine, Pompidou. Le film de cette vie se déroule rapide, scintillant, dans ce que vous appelez les yeux d'acier bleui de l'acteur. Et ces yeux d'acier bleui sont le motif omniprésent dans votre prose. Je disais, on vous connaît comme romancier. Il y a eu aussi par le passé un livre sur Réserve. Vous vous confrontez ici à une autre légende. Pourquoi ce titre? On parlait du nom avec Vanessa Schneider. Elle s'appelait Maria Schneider. Vous avez choisi Un problème avec la beauté. Delon n'arrive que dans le sous-titre. C'est pas directement un problème avec Delon.
Ah non, c'est pas un problème avec Delon du tout, au contraire. Au contraire. Vous voulez que j'explique l'histoire du problème avec la beauté?
Ouais.
C'est que, au départ, on le trouve trop beau. Voilà. C'est une façon de dire qu'il n'est que beau. Voilà. Et d'ailleurs, à ce propos-là, à propos de la beauté, Nathalie Delon, sa seule femme, a eu une phrase magnifique où elle dit « Il est moins beau qu'on le dit et il est plus intéressant qu'on le pense ». Ça, je trouve que innocenter Delon de sa beauté comme ça, c'est vraiment une marque d'amour. Voilà. Pour le reste, pourquoi Delon aussi? C'est parce que je trouve que d'une manière générale, on manque de profondeur avec les acteurs et les actrices. C'est-à-dire, on croit qu'ils nous appartiennent, on ne voit que, si vous voulez, la surface de l'écran. Et moi, j'en avais marre des clichés sur Delon. L'ange et le voyou, voilà, ça revenait tout le temps. Donc, comme le portrait et comme l'écriture est toujours chez moi une tentative d'approfondissement, eh bien, je l'ai joué ainsi.
Mais sur ce titre, un problème avec la beauté, on a bien compris, mais de faire le choix de ne mettre Delon que dans le sous-titre et pas dans le titre.
Oui, enfin Delon, il est quand même dans les yeux, vous voyez. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que je trouve que c'est un très beau titre.
Ouais.
Voilà, c'est ça.
C'est une bonne réponse.
C'est un très beau titre. Et puis c'est quand même le fil rouge du livre, puisque il faut bien voir une chose, c'est que Delon n'a jamais eu aucun problème avec sa beauté. Les autres ont eu un problème avec la beauté de Delon. Simplement, si Delon a été aussi ciblé pendant des années, c'est qu'il était le seul à être aussi beau. Et ça, je fais un parallèle avec ce qui s'est passé aux États-Unis à la même période, c'est-à-dire dans les années 60 ou 70. Beaucoup d'acteurs portaient la beauté. Vous aviez Redford, vous avez McQueen, vous avez Warren Beatty, Newman, bon, même Brando d'une certaine façon. Et donc, en fait, tout ça s'allégeait, ça se relativisait. Le problème, c'est que Delon l'a porté tout seul, la beauté.
Il y avait Belmondo, mais qu'on non, appelait Quasimodo.
Oui. Voilà. Vanessa Schneider. Moi, je trouve que c'est un angle très intéressant parce que et que le titre résume bien. La beauté, c'est source de beaucoup d'ambiguïté et de malentendus. Et on sent à chaque fois qu'il s'exprime sur le sujet, d'ailleurs, qu'il a l'impression de ne jamais avoir été compris. La beauté, c'est suspect. Il y a quelque chose,
absolument,
on se dit.
Parce que c'est injuste.
Bah, il est, oui, et puis on se dit, bah, s'il est beau, c'est qu'il est con.
Ça, ouais,
bien, voilà, s'il est beau, c'est qu'il est idiot. Il y a toujours un doute autour de la beauté. On se demande si c'est pas, voilà, si on ne réduit pas. On réduit la personne du coup à cette seule caractéristique qui est la caractéristique physique.
C'est exactement ça, et je retiens le terme de suspect. Delon a toujours été, pour les autres, suspect, parce qu'il était trop.
Donc l'ange et le voyou, finalement, ça marche bien, parce que c'est suspect qui réunit les deux termes.
Oui, mais ça, c'est un cliché. C'est pas un ange et c'est pas un voyou non plus.
En préparant cette émission, je pensais au poème de Prévert qu'on apprend souvent à l'école pour faire le portrait d'un oiseau. Hein, peindre d'abord une cage avec une porte ouverte, peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau. Et j'adore ça, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Ouais. Vous vouliez, vous aussi, tous les deux, faire quelque chose d'utile pour l'oiseau, pour ces drôles d'oiseaux que sont Maria Schneider et Alain Delon ?
Moi, je me suis pas du tout posé la question de savoir si je voulais faire quelque chose d'utile ou pas. Ce livre, il a une très très longue histoire. Quelque part, ça aurait dû être mon premier livre. Vous faisiez allusion au fait que j'en ai écrit plusieurs, mais ça aurait dû être le premier. Parce que Maria m'avait demandé, il y a plus de 15 ans, d'écrire un livre avec elle. Elle voulait écrire un livre parce qu'elle souffrait de cette... donc d'être réduit à une seule image. Elle avait peur qu'on ne se souvienne d'elle que pour une seule chose, et elle voulait montrer ou la femme qu'elle était et l'actrice qu'elle était. À l'époque, le projet, c'était de, comme j'étais journaliste, d'utiliser mes mots ou ma capacité d'écriture pour pouvoir raconter autre chose d'elle. Et finalement, le projet ne s'est pas fait. Et je suis toujours restée avec cette idée qu'il faudrait écrire ce livre, qui évidemment n'a absolument rien à voir avec celui qu'on aurait écrit ensemble, où j'aurais servi de porte-plume, quelque part. Donc là, c'est un livre où je me raconte autant à travers elle que je la raconte elle. Il y avait, pour rejoindre votre question quand même, néanmoins cette idée de... oui, de dire, regardez, cette femme, elle a existé, c'était aussi une personnalité extraordinaire, hein, avec un caractère incroyable, qui était intelligente, qui était instinctive, qui était belle, qui était charismatique. Et donc, souvenez-vous, allez voir, allez la rechercher.
Donc, utile à une forme, enfin, on peut parler d'utilité, une forme de mémoire ou de souvenir, ou de...
Oui, de
contre les clichés dont on parlait,
mémoire,
d'ailleurs,
oui,
pour Delon avec Parisi.
Oui, ouais. et de la sortir de l'image étroite de laquelle elle a jamais réussi à se sortir de son vivant.
Jean-Marc Parisi, est-ce que vous vouliez être finalement utile à Delon ou à l'image qu'on a de Delon, peut-être en l'approfondissant, en la raffinant, comme vous avez dit tout à l'heure ?
C'est-à-dire que c'est quand même un personnage extraordinaire. C'est-à-dire qu'il commence, c'est 60 ou 70 ans, 60 ans on va dire, à peu près, de cinéma français. Et c'est surtout, c'est une histoire d'abord, hein, puisqu'il a toujours dit, je suis un accident
français
au cinéma.
Et italien.
Et italien, bien sûr. Ouais. En plus, parce qu'il y a des Delon, il y a un Delon italien, il y a un Delon français. Et c'est surtout, pour parler de littérature, c'est que, pour moi, Delon a une dimension extrêmement proustienne. C'est-à-dire qu'il a traversé le temps, il a quantité de personnages en lui, hein. Il a quantité d'amour en lui et il a quantité de facettes aussi, puisque c'est pas simplement un acteur, c'est aussi un producteur, c'est aussi un réalisateur, c'est aussi un homme d'affaires en fait, en quelque sorte. Donc c'était véritablement raconter Delon, sous l'angle évidemment de sa beauté, mais de quelque chose qu'on perçoit moins sous l'angle de son sens. C'est-à-dire que il y a un problème avec Delon.
C'est que finalement,
il y a un problème, c'est que finalement, c'est son rapport à la parole.
Ouais.
Il parle peu.
Dès qu'il parle, d'ailleurs, c'est un événement.
Il faut plus ou moins, non pas interpréter, mais décrypter. Et c'était aussi travailler les silences de Delon. Ouais. Voilà. Mais quand il parle bien.
Ouais. Donc, ce que j'allais dire, c'est qu'il parle bien et c'est extrêmement maîtrisé. Parce que moi, j'étais surprise de retrouver des phrases identiques qui sont citées dans votre livre avec l'interview récente du Monde, mais mot à mot. Et en particulier quand il parle de la rencontre avec Melville au sujet du samouraï, où c'est mot à mot. Ouais. Donc, il a une parole qui est rare, mais qui est quand même très très maîtrisée et construite.
Ou l'acteur et le comédien, la dichotomie qu'il fait, là, c'est un jeu. Il y a aussi une dimension de jeu sur les mots. Enfin, il y a quoi? Il y a de la sémiotique finalement dans un problème avec la beauté.
On va définir. Il y a pour Delon, il y a les comédiens, puis il y a les acteurs. Un comédien, c'est celui qui apprend son rôle, c'est celui qui a été au conservatoire, c'est celui qui prend des cours. Un acteur, c'est un tempérament, un destin mis au service. Voilà, du cinéma. C'est-à-dire, un acteur, c'est Delon, c'est Gabin, c'est Lancaster. Voilà. Par contre, il traite Belmondo de comédien.
Oui, parce qu'il a pris des cours.
Et puis, il a fait du théâtre aussi.
Exactement, exactement. Alors, on parlait de ces drôles d'oiseaux et de ce... Maria Schneider, Alain Delon, à partir de ce poème de Prévert. Vanessa Schneider, vous nous avez expliqué, enfin on le sait d'ailleurs, que vous avez non seulement rencontré l'oiseau, mais vous avez vécu avec elle. Hein. Elle était dans votre maison quand vous étiez adolescente, même petite, hein, au fond, elle est arrivée.
Oui, elle avait vécu chez mes parents avant ma naissance et elle était très très présente dans mon enfance. Donc il y a beaucoup de choses qui sont racontées à hauteur de petite fille dans ce livre, puisque on a donc ces 17 ans d'écart font que j'assiste tout enfant à la sortie du tango et au cataclysme qui va suivre derrière. Et après, on a tissé une relation d'adulte à adulte une fois que les frontières de l'âge se sont effacées jusqu'à sa mort.
Voilà, donc il y a même dans l'écriture de ce livre, finalement, une remémoration de moments physiques avec elle, de sa présence, de son corps, de la façon dont elle se déplaçait dans l'espace, de la façon dont elle parlait, du grain de sa voix. Jean-Marc Parisi, vous n'avez pas voulu rencontrer, je crois que vous l'avez croisé en fait.
Voilà. Il y a des années.
Ouais. Vous n'avez pas voulu, pour ce portrait, le rencontrer.
Delon a cette grâce qu'on n'a pas besoin de le rencontrer. C'est-à-dire qu'il a une filmographie extraordinaire. Moi, j'avais assez de Delon en moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, je traite aussi.
Non, je ne vois pas du tout.
Comment?
Qu'est-ce que vous voulez dire?
C'est-à-dire que j'ai vu pratiquement tous ses films.
Ouais.
J'avais énormément de matière. Et puis, vous savez, c'est un vieux projet. C'est-à-dire qu'encore une fois, je pense que un livre, c'est toujours un rendez-vous qu'on finit par honorer. Mmh. Et c'est ce qui m'a touché dans le livre de Vanessa Schneider, c'est que finalement, à un moment ou à un autre, eh bien, on arrive à le faire et on revient à quelqu'un, on retrouve quelqu'un dans l'écriture, et ça, c'est important. Ce que je voulais dire, je peux dire un mot sur le.
Mais je vous en prie.
À propos du rendez-vous et du lien des acteurs avec la mort. Par exemple, dans le livre de Vanessa Schneider, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché, c'est qu'à un moment, vous dites que vous étiez gamine et vous n'osiez pas le dire à vos parents, mais vous vous demandez toujours si elle était morte ou pas.
Voilà. Ou si elle allait mourir.
Comme si elle allait mourir, exactement. Oui. Bon, exactement. Et finalement, elle est morte très prématurément. Chez Delon, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a joué, qui meurt énormément dans ses films, mais qui d'une certaine façon, comme il le dit, je suis un tragédien, mais qui d'une certaine façon est immunisé dans la vie. Je veux dire, il a une résistance incroyable. Hein. Il est passé par tous les états. Voilà.
Voilà. Et ce rapport à la mort, pourquoi ça vous intéressait davantage? Je vous demandais pourquoi vous n'aviez pas voulu rencontrer pour ce portrait littéraire que vous lui consacrez. Pourquoi, au fond, vous considérez ça comme superflu? Parce que votre rapport à Delon, il est en vous, donc ça serait presque idiot, quoi, peut-être.
Non, c'est trop. Pas seulement ça, Christophe. C'est que je crois qu'il y a un moment où, surtout les acteurs, ne s'appartiennent pas forcément. Et je crois que, c'est pour ça que je parle beaucoup de Proust dans le livre, c'est que dans une vie, on peut avoir plusieurs moi, M-O-I. Vous voyez ce que je veux dire? Et finalement, rencontrer Delon aujourd'hui ne m'en aurait pas dit beaucoup plus sur le Delon du samouraï, sur le Delon de plein soleil, etc. Donc en fait, je suis finalement revenu, voilà, vers cette jeunesse, cet homme qu'il n'est plus en quelque sorte. Parce que c'est ça l'intérêt de Delon aussi, c'est que quand on le voit, Il est toujours double. Il y a le Delon présent, le Delon d'aujourd'hui, mais en nombre porté, il y a toujours tous les autres Delon, d'une certaine façon. Donc, il fallait mêler tous ces doubles dans le livre. En fait.
Pourquoi le choix de Delon ? Vous avez dit, chaque livre est un rendez-vous qu'on finit par honorer. Pourquoi le choix de Delon pour l'écrivain que vous êtes, mis à part cette volonté d'effacer un certain nombre de clichés ? Au fond, vous aviez choisi Rezer, pour d'autres raisons, de Rezer à Delon et pas forcément de points communs. C'est quoi ? C'est un aimant à mélancoliste, un aimant à poésie,
c'est pas un aimant à mélancolie. Parce que la mélancolie, il faut un peu arrêter avec ça.
C'est l'auteur de la mélancolie des fast-foods.
C'est surtout un aimant à poésie. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand même, il n'y a pas que la beauté. Il y a ce qui fait partie de la beauté, à savoir le sens du mouvement. À savoir la gestuelle. Delon est quelqu'un qui bouge, qui agit de manière tout à fait poétique, électrique. C'est du vif argent, voilà. Et puis pourquoi ? C'est parce que finalement, je veux dire, c'est aussi le témoin d'un monde disparu. Et ça, il le dit assez.
On lui a reproché d'ailleurs.
Hein ?
Je fais partie de ces dinosaures
terrassés dans un monde de nains.
Terrassés par des nains.
Voilà, exactement. Oui. Mais d'une certaine, non, mais c'est pas faux. C'est pas faux. Quand on voit sa filmographie, quand on voit ce qui se fait. Ce qu'il a fait et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas faux.
Alors Delon s'est très bien conduit avec Maria Schneider. Mmh. Je vous cite Vanessa Schneider. Tu n'as pas 18 ans et Alain Delon t'aime comme une petite sœur. C'est ton père, Daniel Gélin, qui te l'a présenté. Tu rêves de faire du cinéma. Delon te promène sur les tournages. Il lance ton prénom à la cantonade. Personne n'ose lui dire que ta présence dérange. Tu te glisses dans ses pas, tu observes le moindre de ses gestes, l'intensité de son jeu, tu te régales de son charisme, ça va vous plaire ça, Jean-Marc Parisi.
J'ai lu.
De sa puissance, de sa sauvagerie, on le dit dur, méchant, dangereux. Avec toi, il a décidé d'être doux. Et en fait, c'est lui qui l'a fait embaucher sur le plateau de Madly, donc film de Roger Kahn, sorti en 69. C'est une histoire de mariage à trois, dans lequel Mireille Darc joue son épouse trompée. Vous le mettez en scène, Alain Delon. Vous avez trouvé dans le livre de Jean-Marc Parisi, justement, quelques petits signes aussi d'une secrète correspondance entre vos deux livres ?
Oui, parce que ce qui ressort, quoi, en effet, c'est lui qui a mis le pied à l'étrier, en quelque sorte, à Maria, qui lui a fait jouer ses premières figurations, mais c'était surtout un lien très protecteur qu'il avait avec elle, familial, puisqu'il était lié avec son père et qu'il avait décidé de la prendre sous son aile. Et d'ailleurs, il va le faire après pour la demi-sœur de Maria, pour Fiona Gélin, qu'il a aussi beaucoup entourée. Et il a entouré Maria au point que c'est lui qui a prononcé, lors de sa mort en 2011, son éloge funèbre, qui a lu la lettre de Brigitte Bardot. Et il s'est placé au premier rang, au rang des membres de la famille. Et c'est lui qui a tenu à conduire, à lancer en tout cas les discours par le sien. Donc il occupait. Et ce que j'ai retrouvé dans le livre de Jean-Marc, c'est ce côté extrêmement attentif et protecteur. Vous en parlez avec Mireille Darc, avec Romy Schneider. Mmh. Donc même si les histoires sont finies, c'est quelqu'un qui peut ne pas voir les gens pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais être là comme au premier jour, les retrouver. Voilà. Il y a une espèce de chose de parole donnée ou d'amitié donnée ou d'affection donnée que j'ai retrouvée en effet dans des récits que vous faites avec les femmes qui ont partagé sa vie, ce qui n'était pas du tout le cas de Maria. C'était plus un lien paternel qu'amoureux, évidemment.
C'est ce qui caractérise Delon en partie, c'est la mémoire, c'est l'intelligence de la mémoire, c'est
la fidélité.
Exactement, c'est le mot là, c'est la fidélité. Et puis l'amour, la passion peut se transmuter en amitié, c'est ce qui s'est passé avec Romy Schneider notamment, qui l'a relancé.
Et avec Mireille Darc également.
Exactement.
Ces deux drôles d'oiseaux sont réunis par ce que vous en dites en fait, par le mot « trop ». Je voudrais vous lire Jean-Marc Parisi. Lui, s'il se trouvait trop... C'était trop miné, fadasse, même en plissant le front, il n'avait pas la gravité, la virilité d'un René, d'un Trintignant. Cette beauté excessive, injurieuse, dont on l'accusait, lui seul savait qu'elle recouvrait les stigmates d'un parcours du combattant entamé à Bourg-la-Reine. D'une certaine façon, si jeune, il était vieux, vieux de ce qu'il avait vécu, le vide d'un père, l'éloignement d'une mère, la mise en nourrice et la cour de prison de Fresnes, les galères en pension, la rade de Toulon, l'arsenal de Saïgon, la bohème à Pigalle et Saint-Germain-des-Prés, vieux d'une mémoire exercée, à se souvenir de ce qu'on lui avait fait en mal et en bien, et par là même dilaté, dévorante, faiseuse d'une solitude qui l'exilait davantage encore du temps, du commun des mortels. » Et je vais vous lire Vanessa Schneider, c'est au moment de la sortie du tango. « Il y a soudain trop de tout dans ta vie, trop de désirs, trop d'agressivité, trop de reproches et de tentations, trop de caresses et de coups. Avec le désespoir des noyés, tu te raccroches à une phrase excuse pour expliquer les excès dans lesquels tu bascules. Il vaut mieux être belle et rebelle que moche et remoche.
Mmh. » Elle utilisait souvent l'humour pour se sortir comme ça de questions délicates dans les interviews. C'était en effet des phrases un peu refuge, comme quand on lui parlait du beurre où elle disait « je cuisine qu'à l'huile d'olive ». Voilà, il y avait des petites formules comme ça qui lui permettaient de cacher aussi beaucoup de souffrance.
Par l'ironie. Mais sur ce trop, c'est l'excès qui a fait que vous avez eu aussi envie l'un et l'autre de vous colter à ces figures, parce que ce sont deux figures de l'excès.
Oui, bien sûr. Je veux dire, vous savez, c'est un acteur de long, mais je dis souvent aussi que c'est un artiste, au sens où il a une position extrêmement frontale avec la société. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a son langage, c'est quelqu'un qui a sa morale, c'est quelqu'un qui a sa loi. Ça revient, d'une certaine façon, à la solitude. C'est quelqu'un qui est absolument irréductible. Et d'ailleurs, c'est l'histoire du destin mis au service du cinéma, en quelque sorte.
Le trop.
Oui. Trop. Alors, Delon, l'excès, il l'a éprouvé et il l'a dispersé, il l'a exercé dans son métier. Beaucoup.
Mais pour l'écrivain, c'est intéressant d'aborder cette figure de l'excès, justement.
C'est intéressant parce que ça fait travailler l'écriture. J'ai tout le temps cherché à rattraper Delon dans l'écriture, en quelque sorte. Il bouge très, très vite. Il fallait absolument que je fasse, à un moment ou à un autre, le portrait physique. C'est très difficile de faire un portrait physique de Delon. Bon, j'ai mis du temps, mais je l'ai fait. Il y a 3 pages, essentiellement, sur les yeux, les cheveux, sur, etc. Donc, évidemment, je veux dire par là que je pense que c'est pareil, d'ailleurs, pour Maria Schneider. C'est-à-dire, je pense que ces personnes sont des provocations à l'écriture. C'est-à-dire que, à un moment ou à un autre, comme il est difficile d'en parler, on passe à l'écriture, parce que l'écriture, c'est toujours compliquer les choses. Voilà. Et ils ont besoin d'être compliqués.
Vous êtes d'accord avec ça? Écrire, c'est compliquer les choses, Vanessa Schneider?
Oui, alors moi, il y avait une autre dimension, c'est que ce trop auquel vous faites allusion, c'était quelque chose d'extrêmement angoissant pour moi. C'est que c'était... Voilà, c'était quelqu'un de la famille et qui, du coup, par ses excès, la drogue, c'est quelque chose qui ne touche pas simplement la personne qui s'y adonne. Ça bouscule tout le monde autour, toute une famille. Et quand on est enfant, c'est à la fois effrayant et incompréhensible. Moi, j'assistais à des scènes, je comprenais pas bien ce qui se passait, mais je comprenais que tout ça était pas normal, qu'il y avait des choses qui clochaient. Donc, et ça, c'est des angoisses qui se nouent dans l'enfance, dont je suis pas sûre d'être encore sortie maintenant. Et écrire sur Maria, c'était aussi un moyen de dompter ça, d'essayer de comprendre ça et de mon propre rapport face aux excès et au trop, quoi. C'était une figure qui était extrêmement envahissante, qui suscitait beaucoup de fascination. Forcément.
Mais quand on doit écrire justement là-dessus.
Quand on doit écrire, c'est ça, on tourne autour mais on se fait peur parfois à soi-même. Moi, il y a des moments où je me suis arrêtée d'écrire pendant 7 mois. C'était assez long.
À cause de quoi?
Parce que je trouvais que c'était trop dur, quoi. Il y avait trop de violence, que de raconter tout ça, c'était. Puis moi, ça rebousculait beaucoup de choses, en effet, de l'enfance et de. Donc, je pense que l'idée de, on essaye d'écrire pour dompter des choses, et c'est assez vain finalement, parce que en écrivant, on les réveille aussi, quoi. Donc c'est.
Emprisonne pas, quoi. C'est le contraire de ça. On les met pas dans la cage pour reprendre encore portrait d'un oiseau.
C'est très difficile.
Une question que je voudrais vous poser à tous les deux. Comment on fait avec le risque aussi de panégyrique, quoi, de mise en légende, même d'embaumement, puisqu'évidemment l'écriture sublime aussi, l'écriture aiguise, l'écriture peut arrondir, elle peut faire tout ce qu'on veut, l'écriture. Mais quand on s'attaque à des légendes comme ça, on peut se dire aussi que ça va finir en légende dorée. Enfin, réhabiliter Maria Schneider et offrir enfin un temple digne de ce nom à Delon, par exemple. Comment vous avez-vous négocié avec ce risque-là? C'est pas très intéressant de faire une légende dorée.
Oui, alors moi j'avais plutôt l'interrogation inverse en fait. J'avais peur de, parce que quand on écrit sur sa famille et quand on écrit sur des morts, ça résout pas du tout le problème. D'ailleurs c'est presque pire. Il y a toujours le souci de se dire est-ce que il aurait aimé que j'écrive ça, est-ce que j'ai le droit de parler de ça, est-ce que j'ai pas. Donc ce qui a pu me bloquer, c'était toujours ce souci de me dire est-ce que je raconte pas trop la face noire de Maria, est-ce qu'on va quand même percevoir ce qu'il y avait de lumineux dans sa vie. Donc c'était l'interrogation inverse. Après, ça a été avec retard que j'ai compris que j'en avais fait un personnage plutôt positif, et à travers les lecteurs en fait, à travers le retour des lecteurs qui pour une grande partie la découvraient complètement, les gens savaient très très peu de choses d'elle, pour ceux qui savaient quelque chose, parce qu'ils savaient rien du tout, mais donc c'était vraiment un territoire vierge, et ça j'étais assez émue de ça, de voir que voilà, les gens.
C'est la réception littéraire qui fait, qui a changé votre façon de voir votre propre texte.
Tout à fait. C'est-à-dire, moi, j'avais la crainte d'avoir fait quelque chose de trop noir, parce que je ne voulais pas, justement, occulter la face dark side de, voilà, la drogue, tout ce qui va avec. Et en même temps, dans le regard des lecteurs, j'ai vu que j'étais parvenue quand même à raconter autre chose de beaucoup plus doux, de parfois drôle, joyeux. Et ça, c'était un grand réconfort, en fait.
Jean-Marc Parisi.
Moi, je voulais le démythifier. C'est-à-dire que l'intérêt... Il y a deux choses qu'on dit toujours à propos de Delon, c'est le mythe et le mystère. Bon, moi, je fais un sort au mythe et au mystère. Ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est d'être au plus près de lui. Dans sa vie, dans son rapport avec les femmes, dans son rapport avec les réalisateurs, dans son rapport avec les chiens aussi. Il y a des pages sur son rapport avec les chiens. Donc, c'était véritablement, d'une certaine façon, même s'il a pas besoin, c'était peut-être l'humaniser dans l'écriture. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire le compliquer, le nuancer. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'on manque de profondeur avec Delon, mais comme avec beaucoup d'acteurs. C'est-à-dire que, on l'a jamais gratifié d'une nuance, en fait. En quelque sorte, ça a toujours été le mythe, le beau, le dur, etc. Bon. C'est pas ça, l'écriture. L'écriture, c'est véritablement de faire exploser le mythe et la légende et de travailler, sinon sur la vérité, du moins sur la réalité. Je veux dire, moi, mon livre, il est extrêmement documenté. J'ai passé, des heures à regarder des films, à regarder des documentaires, à lire des livres, et pas seulement sur Delon, évidemment. Donc voilà, c'était, d'une certaine façon, Dieu sait si Delon est sensible à la justice et à l'injustice. Et pour reprendre ce mot-là, je pense que l'écriture a quelque chose à voir avec le fait de rendre justice. Voilà.
Il l'a lu ?
J'espère, on m'a dit que oui.
Il s'est pas manifesté ?
Pas directement, mais le retour que j'en ai me fait très plaisir.
Très bien. On va continuer avec vous deux, Vanessa Schneider et Jean-Marc Parisi, et puis vos deux drôles d'oiseaux, Alain Delon et Maria Schneider. On écoute, Vanessa Schneider, votre choix musical. Vous avez choisi Maria de Patti Smith.
Le temps des écrivains. Christophe Honaudibier.
I knew
Maria de Patti Smith, c'est le choix musical de Vanessa Schneider qui publie chez Grasset. Tu t'appelais Maria Schneider. Je ne vais pas vous demander pourquoi vous avez fait ce choix musical, enfin je vais vous le demander d'une autre façon, peut-être pour les auditeurs qui ne connaissent pas l'histoire, c'est un titre qu'elle a composé pour Maria Schneider.
Oui, dans la nuit qui a suivi l'annonce de sa mort, oui. Et ça a été... En fait, quand on... Je sais pas si c'est le cas pour Jean-Marc, mais quand on écrit
Jean-Marc
comme
Parisi,
ça...
voilà, qui consacre lui un livre à Alain Delon, et vous êtes réunis aujourd'hui sur le plateau du Temps des Écrivains.
Quand on écrit comme ça sur quelqu'un, ça, il se passe de drôles de choses, en fait. Parce que ça, moi, dans mon cas, ça a pris quelques années. Et puis, il y a des choses comme ça qu'on va pas chercher et qui viennent à vous. Et cette chanson de Patti Smith, j'ignorais totalement son existence. Elle est arrivée par hasard au cours d'un reportage où j'avais à chercher de la documentation sur Patti Smith. Et je suis tombée sur une interview où elle parlait de Maria. Et j'ignorais même qu'elles avaient eu cette rencontre, en fait. Qui visiblement avait davantage marqué Patti Smith que Maria, puisque autant elle racontait beaucoup de choses sur des gens très connus, célèbres, et c'était quelque chose de très impressionnant, moi, pour la gamine que j'étais, mais cette histoire, j'en avais jamais entendu parler. Et d'abord, c'est une chanson qui est magnifique, et ce qu'elle y dit est très très beau, puisque cette rencontre entre elles deux se fait après la sortie du tango, Maria part en quelque sorte fuir à Los Angeles, elle se retrouve en Californie et donc elle rencontre plein de gens, dont Patti Smith, avec qui elle partage un moment. Et je voulais évoquer cette figure dans le livre, pas parce que c'est Patti Smith, mais parce que ça, je trouvais que ça illustrait bien à quel point elle pouvait marquer, parce qu'elles se sont pas revues après pendant 40 ans, mais à quel point, voilà, Maria, c'était quelqu'un, quand les gens la rencontraient une fois, ils s'en souvenaient toute leur vie.
Tu t'appelais Maria Schneider, donc c'est votre huitième livre, je le disais tout à l'heure en introduction de l'émission. Et il nous raconte donc votre cousine, Maria Schneider, que vous mettez en scène dans une évocation, un portrait, celui d'une femme broyée par le cinéma et même par une seule scène de cinéma. C'était le Tango à Paris de Bertolucci avec Marlon Brando. Vous écrivez que cette promesse finalement d'une grande carrière, ce début s'est changé en linceul, le linceul de tes rêves, car vous nous la racontez à la deuxième personne, Maria Schneider, à la façon d'une lettre, donc qui convoque la disparue. Vos souvenirs aussi, vos souvenirs d'enfant, c'est un très bref destin, finalement, avant une descente aux enfers ponctuée de réapparitions surprises. Je voudrais juste savoir quand même si, vous nous avez expliqué tout à l'heure que c'était un ancien projet, puisque vous deviez écrire un livre avec elle, quand vous avez vu finalement le paysage médiatico-cinématographique parler de plus en plus de harcèlement, de violence, de mise en conditionnement, presque en emprisonnement de certaines actrices qui sont obligées de se soumettre en fait si elles veulent tourner, est-ce que ça n'a pas sonné aussi comme un testament ou de réapparition de Maria Schneider, qui finalement semblait pas dans l'écriture de ce livre-là, qui n'a pas été fait avec elle, mais vous avez poursuivi la tâche, voir que ça arrivait totalement en résonance avec le personnage, quoi.
C'était très troublant, ça, pour moi, parce que l'affaire, le mouvement MeToo, oui. L'affaire Weinstein, voilà. À laquelle vous faites allusion, elle est arrivée, j'étais en fin d'écriture du livre. Et pour la première fois, parce que moi, j'ai pas fait d'enquête du tout. C'est pas une biographie, j'ai pas fait d'enquête. J'ai en effet convoqué des souvenirs d'enfance. J'ai aussi travaillé sur des photos, sur des coupures de journaux.
Il y a la pochette rouge, il faut expliquer. La pochette rouge.
Sur cette pochette dans laquelle je toute petite, je découpais tout ce qui concernait Maria. Elle-même me donnait des choses de ses tournages, des dossiers de presse, des photos. Et donc, j'avais une espèce de mausolée comme ça de papier.
Pochette rouge dans un environnement maoïste, quand même.
Oui. Voilà. Oui, c'est vrai, j'avais pas fait pas fait le rapprochement. Mais bon, donc moi, j'ai en effet, j'ai pas fait d'enquête. Mais ce qui était très troublant quand ce mouvement, donc MeToo, est arrivé, c'est que pour la première fois, depuis des années, donc depuis cette fameuse pochette rouge où je découpais les articles sur Maria, j'ai vu à nouveau son visage dans les journaux, dans les magazines, et des photos d'elle et de Brando qui illustraient en effet des articles consacrés à la domination masculine, à la violence dans le cinéma, à toutes ces thématiques qui ont ressurgi. Donc j'ai été quelque part rattrapée par cette actualité, donc c'était en même temps troublant de la revoir dans ses... Et un peu, il y avait un goût amer aussi, parce que elle a toujours raconté la façon dont les choses se sont passées. Elle l'a raconté dans des interviews, dans la presse écrite, dans des interviews filmées. Dès le début, elle a expliqué qu'elle était ce qui s'était passé au moment du tournage, qui était très violent, pas simplement cette scène, mais le tournage entier extrêmement violent. Elle était mineure à l'époque, faut le rappeler, elle était mineure, la majorité était à 21 ans, et tout ça dans un silence totalement assourdissant. Et il a fallu la machine d'Hollywood, ou la contre-machine d'Hollywood, avec un tweet de Jessica Chastain qui citait nommément, et qui était, si vous voulez savoir ce que c'est une actrice qui a été abusée, voilà, et pour que Bertolucci s'excuse, enfin.
Le fait de rendre justice, qui peut être une définition aussi, pas de l'écrivain, mais peut-être de l'écrivain quand il s'attaque à un mythe vivant, ou un personnage vivant, ou mort, ou disparu, mais ayant existé, comme c'est votre cas à tous les deux, ça vous va aussi, ça vous convient aussi, de cette idée de rendre justice à Maria Schneider, finalement, par l'écriture de ce livre?
Oui, ça, je l'ai pas fait dans cet esprit-là, mais oui, ça me convient bien, et j'assume même une certaine colère, en particulier dans le passage que vous évoquez, consacré aux excuses si tardives du réalisateur, 40 ans après le film, et à un moment où elle n'était plus là pour l'entendre, puisqu'elle était morte depuis. Et là, j'assume une certaine colère.
Je voudrais que vous entende lire un extrait, Vanessa Schneider. C'est justement avant la scène. On est sur le tournage du Dernier Tango à Paris.
L'Italien, donc c'est Bertolucci, l'Italien comprend vite qu'il est en train de mitonner de la dynamite. Les équipes ont dû signer des clauses de confidentialité, les engageant à ne rien raconter. Bertolucci jubile. Le duo Marlon-Maria fonctionne bien. La gamine est docile. L'acteur apporte ses brisures au rôle et une densité dont il n'avait pas osé rêver. Il lui donne des conseils, suggère placement de caméra et jeu d'acteur. S'accapare le film. Bertolucci est fasciné par l'expérience et l'autorité du cador d'Hollywood à laquelle il se soumet avec délice. La soumission n'est-elle pas le sujet du film? Tu observes ce duo, tu regardes intrigué Brando prendre le pouvoir. Tu arrives au dernier moment, on ne te fait venir que pour les essais-lumière. Tu tournes ta scène et on ne te parle plus. Tu n'as pas la moindre discussion avec Bertolucci, tu n'existes pas à ses yeux. Il ne se soucie que de Brando. Le metteur en scène est également préoccupé par la photo et la lumière. Il veut un film orange, la couleur des années 70, celle des hippies, des saris et des épices indiennes, celle du design, des tuniques, des gourous qui pullulent dans les communautés que nous fréquentons alors, celle aussi du soleil de Californie, le symbole de la vitalité et de l'énergie. Les premiers rushs le rassurent, il est parvenu à donner à la pellicule la teinte recherchée. Dans l'appartement au volet clos, il enchaîne les prises, mais il n'est toujours pas satisfait. Il lui manque quelque chose. Un degré de plus dans la violence sexuelle, un événement paroxystique à la limite du supportable qui fera du film un véritable objet de scandale. Un matin, il prend Brando à part, lui suggère une scène de sodomie non prévue dans le scénario. Les deux hommes se mettent d'accord.
C'est aussi le procès d'une époque que vous faites, Vanessa Schneider?
Moi, j'aime pas tellement ce mot de procès. C'est plutôt la mise en évidence des ambiguïtés d'une époque. Parce que paradoxalement, ce film de Bertolucci, donc il se veut très novateur en matière de libération sexuelle. Donc c'est un couple qui ne se connaît pas, qui se rencontre, qui font l'amour immédiatement. Donc et ce qui se passe sur le plateau, c'est tout le contraire de ça. C'est tout le contraire de l'égalité, de la libération, puisque c'est en effet un film où elle n'a pas son mot à dire, où en gros on lui dit « t'es déjà bien contente d'être là, tu tournes
oui,
avec vous, Brando » et
vous citez d'ailleurs,
tais-toi. Et donc c'est une sorte de double peine pour Maria, qui à la fois s'est retrouvée humiliée et abusée par un homme, ce réalisateur, et en même temps, à la sortie du film, qui se fait insulter par une opinion publique qui l'assimile à cette image de femme scandaleuse.
C'est aussi, oui, un livre sur les images, on en parlera parce que c'est le cas aussi avec vous, Jean-Marc Parisi et Delon. J'avais juste une question quand même sur la question d'écriture, c'est que plusieurs fois revient dans le texte la question de la légitimité. Je vous cite, « Je tente de me prémunir des critiques inévitables, celles de tous ceux qui t'ont croisé et ne te reconnaîtront pas dans le tableau que je brosse, celles des derniers de notre famille qui s'interrogeront sur ma légitimité à te réinventer. Et puis plus tard, je ne le saurai jamais, je ne cherche pas à le savoir, je préfère imaginer, t'imaginer. » C'est vrai qu'il y a deux choses, c'est-à-dire faire l'aveu qu'on imagine, qu'il ne s'agit pas de quelque chose de documentaire, mais qu'il s'agit d'un regard en fait, qu'on porte sur elle, et s'interroger sur la légitimité de ce regard. En fait, on se dit, c'est aussi peut-être la double peine pour l'écrivain, c'est-à-dire de se dire, je vais imaginer, et en même temps, ça ne va pas être légitime. Pas forcément.
Oui, oui.
Légitimer parce que, l'imagination, c'est compliqué.
C'est le roman et l'écriture romanesque est un refuge pour ça, de choisir de ne pas faire d'enquête et d'assumer de l'imagination, des souvenirs forcément tronqués,
parce qu'ils proviennent de l'enfance,
subjectifs. Oui, même s'ils étaient contemporains, je pense qu'on peut prendre une. Si, là, on est tous autour de cette table. Peut-être que si on en faisait le récit après chacun de notre côté de cette émission, il serait différent. Donc tout est roman quelque part. À partir du moment où on met les mots sur un événement, ça devient un roman. Mais il y avait en effet cette inquiétude. C'est son regard à elle, je pense aussi, qui me. Moi, je suis pas croyante, mais bon voilà, il y avait quand même sa présence qui m'a accompagnée et qui continue de m'accompagner. Donc c'est moi je voulais pas écrire pour blesser, en fait. Ça, c'était vraiment et surtout pour quelqu'un qui avait déjà beaucoup souffert. Donc ça peut paraître nunuche de dire ça, mais c'était une vraie ligne de conduite.
La question de la légitimité, elle a été posée pour vous, Jean-Marc Parisi?
Non, pas du tout.
Pour Delon?
Ouais. Pas du tout, puisque c'est quand même le droit imprescriptible de l'écrivain que de travailler sur la réalité. Moi, j'ai travaillé sur la réalité. C'est pas une fiction. Ce que je voulais dire à propos du Dernier Tango et de Delon, c'est que il y a quelque chose de troublant, c'est que j'ai lu qu'on avait proposé le rôle à Delon
et à Belmondo.
Oui, mais à Delon, on l'a proposé, et Delon l'a refusé. À l'époque, c'était l'époque du professeur de Zurlini, ce film magnifique incarné par Delon. Et évidemment, on peut pas refaire l'histoire, mais alors là, c'est du roman. Mais je suis sûr que avec Delon, ça se serait passé autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà.
Il avait refusé le rôle et il avait proposé de le produire,
de
participer
produire,
à la
absolument.
Production
oui,
et ça
oui.
s'est pas fait.
Oui, il produisait souvent. Ouais. Alors Jean-Marc Parisi, on écoute, vous avez choisi aussi, on va parler de Un problème avec la beauté, votre livre, on en a déjà parlé. Laetitia, c'est la chanson du film Les Aventuriers, composée par François de Roubaix et interprétée par Alain Delon.
Laetitia, je ne savais pas que tu étais tout pour moi. Un oiseau chantait tout près de moi, mais je ne l'entendais pas. Et tu vivais innocente, éphémère. Tu habillais nos printemps de chimères. Laetitia, je ne savais pas que la vie n'est rien sans toi. L'oiseau fragile un jour s'est abattu, la mort ne l'a pas rendu. Et tu reposes dans le bleu de la mer, toi qui colorais de bleu nos chimères.
Laetitia. C'est la voix d'Alain Delon.
C'est la voix d'Alain
qu'on
Delon.
Qu'on entend. C'est votre choix, Jean-Marc Parisi. Laetitia, chanson du film Les Aventuriers, composée par François de Roubaix. Vous publiez au sujet de Delon un récit. D'ailleurs, j'aimerais déjà savoir quel nom on peut mettre sur ce texte, sur ce portrait littéraire d'Alain Delon. Un problème avec la beauté. C'est chez Fayard. C'est un récit,
c'est pas un hommage, c'est un... D'abord, j'ai tenu à faire une différence entre le récit et le roman, hein, parce que le récit, c'est un récit qui est essentiellement, qui travaille essentiellement la réalité. Ça, c'est très important pour moi. Il s'agissait pas du tout d'imaginer Delon. Delon est bien trop réel. L'imagination, on n'en a rien à faire dans le cadre de
Maria Schneider disait qu'elle avait imaginé.
Oui, mais ça, c'est autre chose.
Elle l'a connu.
Je veux dire, bien sûr.
Elle en a à faire.
Mais chacun, chacun ses méthodes et chacun sa légitimité, mais l'intérêt quand même, c'est que Delon a une vie tellement extraordinaire, c'est-à-dire du début jusqu'à aujourd'hui, d'une certaine façon, que il y avait vraiment pas de quoi inventer. Ça n'aurait servi à rien. En revanche, il fallait approfondir, il fallait travailler, il fallait peindre. Moi, je veux dire, c'est un tableau, c'est une fresque, hein, et c'est moi le peintre, voilà. Et Delon est mon modèle, en fait, en quelque sorte. Donc, je me suis pas posé la question de la légitimité. Je veux dire, moi, Delon, je le prends, voilà, hein, je le prends. Et je le peins. En revanche, ce qui
comme
est certain,
un sujet.
Comme un sujet. En revanche, la seule justice nécessaire pour moi, c'était justement de m'en tenir à la réalité, à savoir ses films, son histoire, ses propos, ses interviews, voilà.
Alors, je disais dans l'introduction de cette émission, on vous connaît comme romancier, le lycée des artistes, la mélancolie des fast-foods, romancier de l'amour.
Mais j'en ai marre de ça. Je dis.
Vous en avez marre de l'amour.
Non, mais avant, pendant, après, et les aimants, ouais. Effectivement.
Ouais.
De passer pour Mr. Love, si vous voulez. Moi, il y a un moment où ça suffit.
Mr. Love
avec sa beauté.
Mais ça suffit parce que c'est toujours Parisi. Suspect. Mr. Ouais. Love, c'est toujours suspect.
Ouais.
J'aime pas du tout ça.
Dit Mr. Love. Hein,
non, je sais. Mais
d'ailleurs, je ne savais pas qu'on vous appelait comme ça.
Non, mais c'est parce que moi, j'ai un livre où mon personnage s'appelle Mr. Love. C'est pour ça.
Et donc, c'est devenu votre... On a confondu le personnage et l'auteur.
Non, mais en plus, quand vous dites connu comme romancier... Il y a eu un livre qui s'appelle Les Inoubliables en 2014, qui a raté le Renaudot de rien, qui n'était pas un roman, qui était encore une fois un récit, qui était le récit d'une rafle en Dordogne, qui m'a valu 3 ans de travail également, etc. Donc, justement.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Mon évolution aujourd'hui, elle est simple, c'est que.
Le roman, c'est fini?
Voilà. Si, parce que je vais vous dire.
En fait, c'est ça.
Je veux dire quelque chose d'important, c'est que le roman, c'est reposant. C'est-à-dire que, par rapport à ce genre de livre, je veux dire, ce genre de livre, il est... La réalité, si vous voulez, vous cadre. La réalité vous contraint. C'est très compliqué, je veux dire. En même temps, ça peut être
Être rassurant aussi.
Oui, ça peut être rassurant. Mais ça peut être également un bonheur, d'une certaine façon, d'être cadré. Ça peut être une volupté. Mais de devoir essentiellement toujours s'en tenir à la réalité, même si on l'a fait exploser... Voilà. Alors, le roman, c'est bien parce que c'est l'imagination. On a de comptes à rendre à personne. Et voilà. Moi, j'avais quand même un compte à rendre à la réalité et peut-être même à la vérité. Voilà.
Oui, enfin, si c'était aussi facile que ça, roman, réalité, fiction, faction, enfin, c'est... Toutes sortes de débats tournent autour de cette notion. Ils sont toujours pas tranchés aujourd'hui.
Mais en tout cas, c'est tranché. C'est tranché au sens où.
D'accord.
Tout n'est pas roman, voilà.
Donc, c'est un récit sur Delon, totalement cadré par une grosse documentation. Vous avez vu aussi tous les films, c'est ce que vous nous expliquiez.
Ce qui est infini dans le livre, c'est ma sensibilité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est mes couleurs, c'est là où je vais. Je pense qu'il y a des choses qu'on n'a jamais dites sur Delon.
L'écriture est magnifique.
Merci Vanessa.
C'est
l'écriture, c'est la langue. C'est la langue.
Vous m'enlevez les mots de la bouche.
Non, mais c'est vrai, c'est magnifiquement écrit. Et puis, il n'y a que vous qui aurez pu écrire ce livre sur Delon comme ça, avec la même matière. On parlait de matériaux de base. C'est ça qui fait le...
Alors, j'aimerais qu'on vous entende, d'ailleurs, lire Jean-Marc Parisi, mais plutôt les passages de description, justement, physique de Delon.
Bon, alors, c'est Delon à 20 ans. Hein, parce qu'on disait qu'il était trop beau. La presse le trouvait trop beau. Alors, ça donne ça. Trop beau. 3 petits points. dire qu'il avait un galbe de joue idéal, un front fier battu par une houle de mèches noires, moiré, un nez impeccable jusqu'à la pointe, des yeux d'un bleu infini, dire cela ne suffirait pas sans noter l'harmonie liant ses perfections particulières, le dessin des lèvres reprenant la ligne des sourcils par exemple. Et il faudrait encore saisir cette gracilité électrique, les ondes et frémissements l'animant de la tête aux pieds, une vivacité de gestes, une sorte de génie tactile. Trop beau, c'était une façon de l'accuser de sa beauté, la tacher d'un soupçon, d'un néant, lui dénier talent et sincérité, pointer un danger. Delon débutait dans la carrière avec le titre d'acteur le plus envié et le plus détesté du cinéma français selon Paris Presse. Il faudrait s'y faire.
Merci Jean-Marc Parisis. Donc c'est un extrait de Un problème avec la beauté, donc votre récit sur Alain Delon, sous-titré d'ailleurs Delon dans les yeux. Moi, je voudrais savoir, puisqu'on parlait de la langue à l'instant, puisque le sujet était là, vous dites j'ai mon modèle, je suis un peintre. Comment on trouve justement les couleurs viennent de vos mots, puisque vous êtes écrivain. Est-ce qu'il fallait trouver une langue Delon pour écrire sur Delon? Quelle langue il fallait trouver? Tout à l'heure, Vanessa Schneider disait, bon, moi, c'était la deuxième personne, c'était évident. Il
pas
a fallu
que,
aussi.
Mais, oui, par alternance.
Vous avez dit, en tout cas, c'était évident. Ça, c'est imposé, j'allais m'adresser à elle. Oui. Pour vous, quel a été le processus?
Il fallait faire comme d'habitude, c'est-à-dire trouver la langue la plus personnelle possible, d'une certaine façon, puisque on a quand même affaire à un sujet universel. On a affaire à une sorte de mythe. Donc l'intérêt, c'était de travailler la langue la plus personnelle. Il y avait autre chose qui était compliquée, c'est que je me trouvais constamment face aux images, et notamment face aux films. Et il n'y a rien de plus difficile, il n'y a rien de plus dangereux pour un écrivain que de raconter un film. On peut pas raconter un film. Donc ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai isolé certains moments de films qui me semblaient déborder d'une certaine façon du film pour aller vers la vérité ou la réalité de Delon. D'ailleurs, c'était simple puisqu'ils disent que c'est un acteur, c'est-à-dire qu'il vit ses rôles. Donc c'était intéressant dans ce cas-là. Il a vécu ses films, en fait. Voilà.
Il y a quelque chose dans l'écriture de Jean-Marc aussi qui, je trouve, colle alors vraiment là au personnage de Delon. Il y a une espèce de cavalcade. On commence et on a du mal à reprendre son souffle, mais c'est à l'image de la façon dont il vit. Et c'est, je trouve que l'écriture est vraiment en résonance avec la vie qui est racontée, qui est une espèce de course.
Oui, voilà. C'est pour ça que je parlais de langue de Delon, quoi. Oui, c'est presque ça a été dit par Jean-Paul Antoine d'ailleurs. Oui. C'est un livre écrit en Delon. Pas en français, en Delon.
C'est-à-dire qu'encore une fois, il fallait le suivre. Voilà, parce que l'intérêt, c'est ça. Il fallait le suivre, donc il fallait...
Une des autres choses intéressantes avec ce texte, c'est qu'au fond, très vite, la littérature, on est dans la littérature, mais très vite, les écrivains, en fait, sont là. En fait, très vite, il y a Delon, il est dans le livre, il est le livre, mais il y a Genet. Jean Genet, qui est évoqué d'abord comme un hasard, puisque, je vous cite, le petit Delon s'amusait dans une cour de prison non loin de la geôle où Jean Genet chargeait la poésie d'en ouvrir les portes. Le gamin a peut-être entrevu le visage du prisonnier derrière ses barreaux, sa silhouette au retour d'une promenade ou d'un transport de justice. Il se peut aussi que le regard du détenu se soit arrêté sur les jeux, les expressions, l'esseulement de ce garçonnet de 6 ou 7 ans, brun, délicat, à la souplesse inquiète. Peut-être même l'enfant et le poète se sont-ils un jour souri, adressé un signe de loin, sans se distinguer vraiment. Ce qui circule, s'échange sur l'axe des regards n'est pas rien, surtout entre deux corps éminemment sensoriels, récepteurs. C'est un hasard d'abord, puis ça va être un fil rouge, parce qu'évidemment, il y a le côté voyou aussi de Delon ensuite.
Et vous voyez la différence avec le roman, c'est que je dis peut-être, c'est-à-dire que je laisse d'une certaine façon planer le doute. Ça a pu se passer. Je ne sais pas si ça a pu se passer, mais c'est vrai qu'ensuite après, vous savez, les yeux prennent date. C'est-à-dire que les yeux donnent rendez-vous. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le cas de Delon, ça marche souvent. Ça marche en 57 quand il part à Cannes, quand il part au Festival de Cannes, et qu'il n'est pas du tout connu, il n'a pas tourné de film, mais qu'en même temps, au même moment, Romy Schneider présente l'un de ses Sissi. Donc ils ont pu les yeux ont pu se croiser, les yeux ont pu prendre date. Ça se passe aussi à Toulon, au milieu des années 50,
Mireille
D'Arc, qui est à Toulon, qui est la fille de l'épicière, à Toulon. Et donc, à chaque fois, effectivement, c'est comme si... C'est exactement pareil que
c'est
pour
les... C'est plus le romanesque qui vous intéresse que le roman, en fait.
C'est parfaitement dit. Voilà, c'est exactement ça. Il n'y a plus rien à dire, Christophe. C'est exactement ça. Voilà.
Le recours à la troisième personne, on parlait de la personne, là, c'est intéressant, parce qu'évidemment, Delon, et vous en parlez, parle de lui à la troisième personne, mais pas par égotisme, en fait. Vous expliquez.
Mais moi, j'inverse. Voilà. Moi, je pense que c'est l'inverse. Je pense qu'il
C'est intéressant qu'un écrivain, Qu'un écrivain dise ça, parle de la personne, de la situation, d'énonciation.
Ce que je crois maintenant aussi de Delon, et après l'interview du Monde encore plus, c'est que d'une certaine façon, c'est quelqu'un qui d'une certaine façon presque s'étonne de ce qui lui est arrivé. C'est très étonnant, il se regarde. Vous voyez ce que je veux dire ? Il se regarde, et Delon est un autre, d'ailleurs, il le dit. D'ailleurs, il l'a dit, le après vrai Delon, Rimbaud. Delon... Le vrai Delon sera toujours le petit garçon de Fresnes, d'une certaine façon. Et cette histoire de troisième personne, c'est pas une troisième personne royale, c'est que je pense que c'est presque une modestie, d'une certaine façon. C'est presque une pudeur. C'est une façon de se dire, mais est-ce que c'est vraiment moi, celui qu'on voit tout le temps ? Est-ce que voilà, c'est ça aussi le livre. C'était faire la différence entre, d'une certaine façon, un mythe, une image, et puis l'homme le plus profond et le plus, comment dirais-je, le plus personnel. Voilà, il y a un malentendu sur Delon.
Et une identité et un personnage, c'est important personnage. Cette notion de voilà. personnage.
Et vous savez ce qu'a dit Pascal Jardin, qui est un magnifique écrivain, il a dit le problème de Delon, c'est que il est constitué de beaucoup de personnages et qui ne s'entendent pas entre eux. Et c'est exactement ça, en fait. Voilà.
Qu'est-ce que vous avez découvert sur... qu'est-ce que l'écrivain a découvert sur Delon, au terme de ce livre ?
J'ai confirmé des intuitions sur Delon. C'est-à-dire une aptitude à l'esprit très très forte, sans jamais beaucoup parler, mais ce qu'il dit est toujours extrêmement profond. D'une autre façon, des idées aussi sur la solitude. C'est-à-dire véritablement, il y a beaucoup de pages sur la solitude, mais la solitude de Delon, elle est magnifique parce que c'est une solitude hantée. C'est-à-dire, elle est faite de toutes ses vies, même très tôt d'ailleurs, parce que très tôt, à 20 ans, il est déjà un peu, il est seul, il a ce tempérament solitaire. Mais c'est parce que la solitude, c'est pas le vide, c'est pas le néant, c'est au contraire un trop-plein de choses en soi avec lesquelles on doit conférer, en fait, en quelque sorte. Voilà.
On retrouve le trop. Et vous, Vanessa Schneider, qu'avez-vous découvert sur Maria Schneider au terme aussi de ce livre que vous lui consacrez ?
Moi, je pense que j'ai davantage découvert des choses sur moi et sur notre famille commune que sur elle, parce que c'était pas une enquête. Et ce qui m'intéressait beaucoup dans quoi d'écrire sur Maria, c'était aussi de comprendre l'impact qu'elle a pu avoir dans et dans mon enfance et dans ma construction en tant que jeune fille puis femme avec un personnage comme ça si marquant. Donc c'est
dans une famille quand même, c'est vrai qu'on en a pas parlé.
Oui,
dans
c'est un roman familial
maoïste,
également.
Voilà, oui. Où tout est plutôt cadré, où on essaie de cadrer les choses.
À la fois cadré et décadré, où il y a quand même
cinéma.
Donc il y a aussi beaucoup de confusion et oui, il s'agissait à la fois de remettre de l'ordre et puis de, pour moi, par l'écriture de ce livre, il y a beaucoup d'écho dans ce livre, d'écho entre ma vie, mon enfance, notre vie familiale, Maria, et toutes ces choses sont en résonance, donc c'est plus cet assemblage de choses qui m'ont fait comprendre des choses.
Vous diriez, pour terminer, que ces tombeaux ou ces hommages ou ces récits sont aussi, par exemple, pour vous, un autoportrait en Delon, Jean-Marc Parisi ?
Non, j'aurais pas cette prétention. J'aurais pas cette prétention parce que l'une des choses que j'ai apprises également, que j'ai confirmé avec ce livre, c'est qu'on a affaire à quelqu'un d'absolument unique. C'est-à-dire qu'il y aura plus de Delon. C'est-à-dire qu'il y aura plus cette histoire. Il y aura plus ces films.
Ces films, pourquoi vous ?
Non, mais je veux dire, il y aura plus de films comme ceux qu'il a fait d'une certaine façon. C'est-à-dire que il incarne vraiment un moment du cinéma. Il incarne vraiment. En plus, le cinéma, ça se fait pas tout seul. C'est ce qu'il a dit. Le cinéma est une œuvre collective. Voilà. Et il est tombé au cinéma avec Clément, Melville, etc. Donc Delon, ce sera. Il y en a eu qu'un. Et il n'y en aura plus, voilà. C'est l'exception.
Vanessa Schneider, sur ce risque d'oubli dont parlait Jean-Marc Parisi, ce livre, il est là aussi pour ça, où il y a la nécessité de transmettre quelque chose aussi ?
Pour moi, c'est merveilleux de voir en effet qu'elle vit une seconde fois à travers les lecteurs, tout simplement, qui la redécouvrent et qui apprennent à la connaître. Alors, ils apprennent pas à connaître forcément Maria Schneider, mais ils apprennent à connaître ma Maria, et tout ça, c'est très émouvant.
Et Delon, lui, est toujours vivant,
Et Delon est toujours vivant.
Merci à tous les deux, Jean-Marc Parisi et Vanessa Schneider. Je rappelle le titre de vos ouvrages. Tu t'appelais Maria Schneider, c'est chez Grasset. Un problème avec la beauté de Jean-Marc Parisi, c'est chez Fayard. Le temps des écrivains, c'est Anne-Catherine Lochard, Jean-Christophe Francis, à la technique Valérie Lavalard. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter de manière infinie sur franceculture.fr. 7h autour d'Alain Delon et de Maria Schneider, avec Vanessa Schneider et Jean-Marc Parisi. Merci à vous.